Je voudrais qu'on puisse sans tarder ouvrir la Bible dans Matthieu, le chapitre 9. On va lire à partir du verset 1er. C'est des histoires qu'on connaît bien. Deux histoires en particulier qui ont lieu dans ce chapitre. Et je voudrais m'arrêter sur des paroles que Jésus a dites dans les deux situations. La même parole qu'il a répétée. Matthieu chapitre 9, verset 1er. Et je crois vraiment que c'est quelque chose qu'on a besoin d'entendre, que j'avais moi-même besoin d'entendre par rapport au contexte qu'on a vécu toute cette semaine. Si vous avez regardé la télévision, vous savez de quoi je parle. Et je crois que ces choses que nous allons partager cet après-midi vont nous permettre d'être rassurés, d'être dans cet état d'esprit que Dieu veut qu'on l'en soit. Dieu veut pas que l'on soit dans l'affolement, Dieu veut pas que l'on soit dans la peur, dans la crainte. Voilà ce que le Seigneur nous dit, Matthieu chapitre 9, verset 1er. Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique, couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » On va au verset 6. « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Amen. Verset 20. « Voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie quelques jours plus tard. Non, c'est pas ça? J'ai pas la bonne version? À l'heure même. Vous avez remarqué la même parole qui a été donnée par le Seigneur Jésus au même moment, « Prends courage ». Et c'est cette parole qui s'est imposée à mon cœur et je crois que c'est cette parole que nous avons tous besoin d'entendre et nous avons besoin d'être encouragés de savoir que Jésus est celui qui veut nous dire encore cet après-midi, prends courage. Je ne sais pas quelles sont les choses qui vous rassurent. Cette semaine, on parlait justement, c'était jeudi je crois, quelqu'un qui se rendait compte que en entendant ce qui se passait à Paris, qu'ils avaient mis même des policiers devant tous les lieux de culte, il disait, mais est-ce que ça serait pas bien qu'ici aussi on puisse mettre des personnes qui viennent se poster à l'entrée avec des armes pour empêcher quoi que ce soit? Qu'est-ce qui nous rassure sur cette terre? Est-ce que c'est une escorte qui va être à l'entrée, qui va nous rassurer vraiment? Est-ce que peut-être pour quelqu'un ça va être le fait de savoir qu'il a un compte bien rempli face à l'avenir, il va pouvoir pourvoir à tous ses besoins en ayant son compte bien rempli, c'est ça qui le rassure? Peut-être quelqu'un, c'est plutôt, mais moi je préfère être enfermé à double tour dans ma maison, vérifier 5 fois que la porte est fermée avant de pouvoir dormir. Est-ce que c'est ça qui nous rassure vraiment? Est-ce que c'est au contraire d'être dans une foule, au milieu de la foule, et de se dire tout le monde pense comme moi? Ça me rassure, comme beaucoup le font aujourd'hui. Est-ce que c'est ça ce que le Seigneur veut dire quand il dit « prends courage » Est-ce que c'est ce repos-là? Est-ce que c'est cette force-là? Ou est-ce que c'est celle qu'il nous propose dans sa parole? Vous êtes d'accord que le courage et la force qui vient du Seigneur, ce repos que le Seigneur nous propose, cette force pour pouvoir avancer malgré tout, c'est que dans sa parole qu'on peut le trouver. Je vais regarder rapidement la définition du courage. Quand Jésus dit « prends courage », c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on veut dire derrière. Il y en a qui ont expliqué comme ça. « Fermeté de cœur, force d'âme, effort fait sur soi-même pour résister à une épreuve ». Plutôt que de baisser les bras. On est d'accord? Ce courage-là, dans une épreuve, on résiste. Ce courage de combattre une peur, plutôt que de rester dans la peur. Des fois, on a peur de certaines choses, mais parce qu'on a du courage, on arrive à combattre ce courage, cette peur-là par le courage. Pour reconnaître une vérité désagréable. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de courage pour reconnaître quelque chose, un tort qu'on a? Vous comprenez? Si on a une faille et que quelqu'un vient nous dire « t'as une faille », est-ce qu'il ne faut pas quand même un petit peu de courage et du bon sens pour le reconnaître? Du courage pour soutenir des idées qui ne sont pas comme tout le monde pense? Est-ce qu'il ne faut pas du courage aussi? Et il y a toutes sortes de choses, on pourrait détailler plein de situations, mais je ne veux pas le faire. Je voudrais surtout insister en lisant encore dans Matthieu 9, mais le verset 36, vous expliquer que le Seigneur Jésus se plaît à redonner courage à ses enfants. Le Seigneur Jésus, s'il y a bien quelque chose qu'il aime par-dessus tout, c'est de voir un cœur qui est dans l'abattement, dans le découragement, et de lui dire « Prends courage, prends cette portion de force que je veux te donner pour avancer sur le chemin que je dresse devant toi. » Regardez Matthieu 9, 36. « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. » Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Vous connaissez ce passage? Et si on regarde la suite, juste après, il va sur la montagne, il réunit plutôt les 12 disciples et il les envoie pour chasser les démons, pour partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il leur demande avant, « Priez pour que le Seigneur envoie des ouvriers. » Et juste après, il envoie les ouvriers. Il y en a qui peut-être ont prié, « Seigneur, je te prie que tu envoies un ouvrier. » Et puis le Seigneur est venu le voir et dit, toi, c'est toi que j'envoie. Des fois, on est surpris, parce qu'on pense que c'est Dieu va se servir des autres, pas de nous. Mais Dieu veut nous utiliser pour sa gloire. Mais regardez la délicatesse du Seigneur dans cette affaire. Le Seigneur est celui qui voyait la foule, et qui voyait la foule languissante et abattue. Est-ce que ce n'est pas justement quelqu'un qui est découragé, qui est languissant et qui est abattu? Quelqu'un qui est lassé? Regardez avec moi dans Matthieu 15, verset 32, juste quelques chapitres plus loin. C'est un petit peu la même chose qui se passe, mais dans un contexte différent. Matthieu 15, 32, « Jésus ayant appelé ses disciples dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manque en chemin. » Et on sait que par la suite, le Seigneur a fait une multiplication. Il avait fait quelques chapitres avant, mais il a refait. C'est la deuxième multiplication qui a eu lieu. Et le Seigneur a pourvu aux besoins de cette foule, parce qu'il avait vu que cette foule était fatiguée, que cette foule avait besoin de manger. Le Seigneur est celui qui a répondu de manière surnaturelle. Et c'est ce qu'il veut faire encore cet après-midi, je le crois de tout mon cœur. S'il nous dit « Prends courage », ce n'est pas pour nous laisser sans rien, nous laisser les mains vides. C'est pour nous apporter cette force, pour nous apporter cette bénédiction que nous avons besoin de recevoir. Mais ce que je remarque, c'est que face à des personnes qui sont abattues, qui sont languissantes, qui se sont relâchées, qui sont sur le bord du chemin, qu'est-ce qui se passe dans le cœur du Seigneur? Il ne se passe pas la même chose que nous. Quand on voit des personnes qui sont découragées, qui tous les dimanches viennent, ils sont découragés, au bout d'un moment, nous, en tant qu'êtres humains, on est agacés, on est fatigués, on dit « mais c'est pas possible, il faudrait qu'elle se bouge, cette personne, à moins que ce soit que moi qui réagisse comme ça ». Mais le Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe quand il voit une personne dans cette attitude de cœur? Il est ému de compassion. Et je crois qu'on a tellement besoin de regarder au modèle du Seigneur Jésus, à ce cœur d'amour, et avoir nous-mêmes le cœur ému de compassion face à ceux qui sont dans le découragement. Pas être agacé, non, mais avoir cette compassion véritable. Jésus est plein de cette délicatesse. Je lis un verset pour vous qui nous dit ceci, qui nous explique pourquoi le Seigneur fait cela. « Considère en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. » On comprend que c'est Jésus. Sur la croix, sur toutes les souffrances qu'il a endurées, il a supporté une opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Une des raisons qui fait que Jésus a accepté d'aller jusqu'à la croix, c'est que nous puissions ne pas avoir l'âme découragée, que nous puissions ne pas nous lasser, et que si jamais cela arrivait, le Seigneur nous permette de repuiser le courage, de repuiser la force pour avancer. Comment se décourager? Ça, c'est quelque chose, quand je l'ai écrit, je me suis dit, est-ce qu'il y a même besoin d'en parler, tellement on se décourage facilement. Vous êtes d'accord? Dans la parole, on voit tellement d'exemples de personnes qui se sont découragées dans des situations, dans des autres, mais même sans regarder tous ces exemples, même sans les connaître, c'est tellement facile de se décourager. On va quand même en voir quelques-uns. Quand il est question, par exemple, dans Deutéronome, il est parlé de ce moment, Deutéronome chapitre 1er, ce moment où il rapporte l'histoire de quand ils étaient devant le pays de la promesse et que les espions qui sont revenus, les 10, ont commencé à décourager tout le monde. Deutéronome chapitre 1, verset 28. Il est dit, il faut que je le retrouve. Deutéronome 1, verset 28. Où monterions-nous ? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant : c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Vous avez vu ce qui est marqué ? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant : c'est un peuple plus grand et de plus haute taille, ils ont des grandes murailles, leurs villes sont fortifiées, leurs armées sont puissantes, ce sont des géants, etc., etc. Quand on regarde à ce qui est visible, on se décourage. Quand on voit par la suite ce qui s'est passé, il y avait une règle qui était donnée à Moïse dans la loi, qui disait que quand quelqu'un devait aller au combat, il ne fallait pas qu'il soit découragé. Et je vous le lis, les officiers continueront à parler au peuple et diront « Qui est-ce qui a peur et manque de courage ?» Qu'il s'en aille et retourne chez lui afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Parce que le courage, c'est quelque chose qui est contagieux. On est d'accord ? C'est quelque chose qui contamine les autres. Et quand on est avec des personnes qui sont découragées, que nous-mêmes on est dans le découragement, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Une autre chose, Josué, chapitre 7, juste après Josué, chapitre 7, verset 5. Le peuple a remporté une grande bataille avec Jéricho, sans même donner un coup d'épée. Ils ont fait tomber les murs, simplement en obéissant à la parole. Mais dans Josué chapitre 7, verset 5, il s'est passé quelque chose, c'est qu'il y a Achan qui a commencé à désobéir au Seigneur et qui a amené la malédiction sur le peuple d'Israël à ce moment-là. Et Josué chapitre 7, verset 5 nous dit « Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes ». Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim. Ils les battirent à la descente. Et le peuple fut consterné et perdit courage. Est-ce que quand on vit des défaites, ça nous amène pas à perdre courage aussi ? Le fait d'avoir des échecs dans nos vies, le fait de retomber dans un péché peut-être, le fait de se mettre en colère alors que qu'on avait totalement abandonné cela, est-ce qu'il n'y a pas des échecs ? Je donne des exemples, mais il y a tellement d'occasions où on peut vivre des échecs. Et est-ce que ce n'est pas cela qui peut nous faire perdre courage ? Quand on écoute les mensonges de l'ennemi, quand on voit Néhémie ce qu'il s'est passé, il y avait tout un stratagème qui était fait pour qu'il entende une proposition. Il a reçu une lettre de Sambala, vous savez, dans Néhémie chapitre 6, je le lis pour vous. Et dans la lettre, il est dit... « Tu vas devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Maintenant, ces choses vont arriver à la connaissance du roi. » Et Néhémie, qu'est-ce qu'il leur raconte ? « Ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'invente. » Et des fois, on se fait piéger parce qu'on écoute les mensonges de l'adversaire. Et qu'est-ce qui se passe ? Il le dit lui-même, « Tous ces gens voulaient nous effrayer. » Il se disait, « Ils perdront courage. » Et l'œuvre ne se fera pas. Quand on écoute les mensonges de l'adversaire, est-ce que ça vous arrive jamais d'entendre les mensonges de l'adversaire ? Et quand on y réfléchit, quand on est en plein dedans, on ne se rend pas compte, mais quand on y réfléchit, on se rend compte que c'est des choses qui nous amènent plus bas que terre. Si on est déjà, on a l'impression d'être à genoux, ça nous met la tête contre terre, les mensonges du diable, si on les écoute. Mais si on choisit de faire comme Néhémie, de dire non, ce que tu dis là n'est pas vrai. Moi, je veux croire à la parole de Dieu. Alors, le Seigneur peut nous permettre de garder courage. Mais on peut se faire avoir. Dans le psaume 40, David, il est en train de regarder à lui-même, dans ce verset 13, et quand il dit cela, il dit « Des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, je ne puis en supporter la vie, ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. » Quand on regarde à soi-même, à ses failles, à ses défauts, laissez-moi vous dire que, quelle que soit l'idée qu'on se fait de nous-mêmes, on se décourage. Même si on a une haute estime de nous-mêmes, on va se décourager en regardant nous-mêmes parce qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Et un autre aspect, je ne voudrais pas être trop long, parce que ce n'est pas le cœur du message. Dans Hébreux chapitre 12, on peut le lire ensemble par contre. nous voyons une autre raison qui fait qu'on peut se décourager. Hébreux chapitre 12, verset 5. Hébreux chapitre 12, verset 5. Il est dit, « Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage. » À quel moment ? Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Ne perds pas courage quand il te reprend. Est-ce que ça nous est jamais arrivé, peut-être, de perdre courage parce que le Seigneur était en train de nous reprendre, mais on a perdu courage, non pas parce qu'on a écouté, mais parce qu'on a résisté à ce que le Seigneur nous disait. Celui qui, quand il est repris, il va s'humilier, il va demander pardon, il ne va pas perdre courage, au contraire. Celui qui est repris, qui est corrigé par le Seigneur et qui dit « Non Seigneur, je ne veux pas faire ce que tu me demandes », c'est celui-là qui va perdre courage. C'est celui-là qui va rester dans cet accablement, dans cette lassitude, qui va avoir l'impression que tout ce qu'il fait ne sert strictement à rien. Heureusement, comme nous l'avons dit, quand Jésus voit quelqu'un qui manque de courage, qui manque de cette assurance, qui manque de paix, il est celui qui redonne le courage. Vous connaissez ce passage, je vous le cite. « Je vous dis ces choses, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Ça fait plaisir de savoir que le Seigneur veut que nous ayons la paix. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Pourquoi ? Parce que j'ai vaincu le monde. » Si moi je disais ça, ça ne servira à rien parce que ce n'est pas vrai. Mais Jésus peut le dire, j'ai vaincu le monde, parce qu'il est allé jusqu'à la croix, sur la croix, il a vaincu le monde, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu le diable, il a vaincu les dominations, les autorités, etc. Il a tout vaincu sur la croix. Et maintenant, si nous pouvons prendre courage cet après-midi, c'est parce que Jésus a vaincu le monde. Est-ce que nous réalisons cela ? Quelle que soit la tribulation, quelle que soit l'épreuve que nous allons pouvoir vivre, Jésus nous donne ce courage qui ne dépend que d'une chose, de cette œuvre qu'il a accomplie. Ça ne dépend pas de nos efforts, ça ne dépend pas de nos forces à nous, de notre intelligence, ça dépend de l'œuvre qu'il a déjà accomplie. Et ça doit être quelque chose qui doit nous faire du bien. Quand on réalise ce qu'il a fait, tout à l'heure on disait qu'il a supporté ce que les pécheurs ont pu lui faire. Est-ce que ça ne lui a pas demandé à lui un courage, mais pas le courage qu'il nous demande, un courage d'un autre niveau, un courage immense que le Seigneur a dû accepter déjà en renonçant à sa divinité pendant quelque temps, à sa position du moins qu'il avait dans le ciel, pour venir sur la terre dans un corps humain et subir tout ce qu'il a vécu jusqu'à la croix, cette obéissance de tous les jours, qu'il a appris, il a appris l'obéissance par les souffrances qu'il a vécues. Quel courage il a dû manifester. Mais en retour, il nous demande à nous de pas d'avoir ce même courage, parce qu'aucun homme ne peut l'avoir. Il nous demande d'avoir un courage humain, d'accepter sa proposition, d'accepter son aide. Jésus ne veut pas nous forcer. Vous avez remarqué comment il parle à ces personnes, à ce paralytique, à cette femme qui a la perte de sang. Il ne leur dit pas « je vous force à être plein de courage ». Il leur dit, prends courage. Voilà, je te propose le courage, je le mets devant toi. C'est exactement ce qui se passerait si on avait soif et qu'il y avait un immense barrage. Moi, j'ai cette image en tête. Un immense barrage qui était là devant nous et un petit robinet qui était là devant. Mais le Seigneur nous dit, vas-y, prends, sers-toi. Mais à un moment donné, il faut que nous tournions le robinet si on veut boire. Et c'est la même chose qui se passe, le courage de Dieu, la force de Dieu, la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, c'est quelque chose d'immense. Hier, avec les jeunes, on parlait de l'infinie grandeur de sa puissance. Et se manifestant avec force, avec efficacité, selon la vertu de sa force. Donc on voit que c'est quand même quelque chose d'impressionnant que le Seigneur nous propose. Mais il nous dit, voilà, prends courage. Saisis-toi de ce que je mets à ta disposition. Je ne vais pas te forcer à être encouragé. Il faut que tu fasses ta part aussi. Le Seigneur Jésus a fait sa part sur la croix. Maintenant, c'est à nous d'accepter la part qu'il nous propose de faire. Et qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce qu'on peut disposer de ce courage ? Comment est-ce qu'on peut prendre ce courage que Dieu nous donne ? Eh bien, dans Matthieu 9, c'est ce qu'on a lu. « Prends courage, mon enfant. » Qu'est-ce qu'il dit ? « Tes péchés sont pardonnés. » Est-ce qu'il y a quelqu'un cet après-midi qui croit qu'en demandant pardon pour notre péché, c'est le meilleur moyen de commencer à prendre courage? C'est quand on commence à avoir ce petit courage de dire « je reconnais mes torts ». Tout à l'heure, on disait dans la définition que le courage, c'est le fait de reconnaître quelque chose qu'on a fait et qu'on a du mal à... Comment c'était dit ? Reconnaître une vérité désagréable. Est-ce que le fait de savoir qu'on est pécheur, c'est agréable ? Je crois que c'est peut-être la pire chose qu'on peut nous dire, mais c'est une des choses les plus vraies qu'on peut nous dire aussi. Je suis un homme pécheur. Si le Seigneur vient et nous dit, tu es un homme pécheur, regarde, là tu as péché, là tu as fait ceci, qui n'était pas conforme à ma parole, là tu as fait cela, ça a blessé mon cœur. Mais le Seigneur Jésus ne nous rejette pas, il nous dit, je suis ému de compassion devant ton découragement. Demande pardon pour ton péché et tu retrouveras le courage. Demande pardon, place ta foi en moi. À la femme à la perte de sang, prends courage, ta foi... t'a guéri. Quand on demande pardon pour notre péché, quand on se repent devant le Seigneur, quand on place notre foi en lui, on retrouve courage. Il y a tellement de choses aussi dans la parole de Dieu, heureusement, qui nous montre ce qu'il faut faire. Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Est-ce que quelqu'un cet après-midi n'a pas besoin d'entendre cette parole, simplement ? Que le Seigneur Jésus est avec toi, il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui nous rassure et nous permet de reprendre courage, les promesses que Dieu nous laisse dans sa parole? À un moment donné, David a vécu une situation tellement compliquée. Alors que lui avait la promesse de devenir roi, il était obligé de fuir. Il était obligé de s'entourer des hommes qui étaient mécontents du royaume par rapport à Saül, et il était entouré de ces personnes. Et à un moment donné, alors qu'il était allé combattre un peuple, je crois, il y a des gens qui sont venus à sa maison, qui ont pris toutes les femmes et les enfants, les richesses, etc., qui ont pillé le village où ils étaient. Vous connaissez cette histoire? Elle se trouve dans 1 Samuel 30. Mais on ne va pas la lire en entier parce que ça rallongerait considérablement. Je vous invite à le lire à la maison. Mais à un moment donné, il est dit, quand David est arrivé et qu'il a vu tout ce qui s'était passé, quand on lui avait pris toutes ses femmes, ses enfants, ses richesses, alors qu'il n'en avait pas beaucoup encore, il n'était pas roi, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Tout le monde avait perdu ses fils et ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Combien je trouve cela merveilleux. Tout le temps où il a considéré tout ce qu'il avait perdu, ses femmes, ses enfants qui n'étaient plus là, tout le temps où il a considéré qu'il n'avait plus rien de point de vue des biens matériels, tout le temps qu'il a considéré que même ses amis étaient en train de lui tourner le dos et de l'accuser et de vouloir lui faire payer. Tout ce temps-là, il était dans l'angoisse. Et dès l'instant où il a choisi de s'appuyer sur Dieu, il a repris courage. C'est tellement simple et c'est tellement vrai. Quelqu'un a besoin cet après-midi, justement, de ne pas regarder autour de lui, de ne pas regarder à ces choses qu'il a perdues de par le passé, de ne pas regarder à ces personnes qui lui ont tourné le dos peut-être récemment, alors que c'était les meilleurs amis, ils lui ont tourné le dos totalement. Mais le Seigneur Jésus vous appelle à regarder à lui. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir reprendre courage. En agissant selon la parole, vous connaissez Josué et les conseils qui lui ont été donnés. Juste quand Moïse est mort, c'est lui qui a dû prendre la charge du peuple et il a eu vraiment cette parole de la part de Dieu, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Comment ? En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Et puis il insiste, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. En agissant, quand on agit selon la parole, on reprend courage. On a du courage encore davantage qui vient du ciel. Quand Josué a réglé le problème d'Acan, selon la parole qui lui a été adressée, ils se sont mis à nouveau à avoir des victoires. C'est exactement ce qu'il a vécu. Pourtant, cette parole, il a reçue avant l'histoire d'Acan. Il était dans l'ignorance, il ne savait pas qu'il y avait un homme qui avait désobéi aux ordres, qui avait amené la malédiction, qui avait commis un interdit. Mais dès l'instant où ils ont réglé de la façon dont la parole le demandait à cette époque, la bénédiction est venue à nouveau. C'est tellement simple, agir selon la parole. Réparer l'injustice. Connaissez l'histoire d'Athalie, cette reine, cette personne qui a voulu devenir reine, alors que ce n'était pas à elle de devenir reine. C'est une personne qui, alors que son fils est mort, a choisi de faire périr tous les fils du roi pour qu'elle prenne la place du roi et qu'elle devienne donc la reine du royaume de Juda. Et je vous donne aussi la référence, dans 2 Chroniques 23, elle a commencé à régner et il y a des sacrificateurs qui ont commencé à se lever et qui ont commencé à dire « ce qu'elle a fait n'est pas juste ». Et heureusement, il y avait quelqu'un qui a, au moment où les fils de roi étaient en train d'être tués, il y a quelqu'un qui a été caché. Et c'est le roi Joas, celui qui est devenu plus tard le roi Joas, qui était tout petit à cette époque, qui a été caché pendant quelques années. Et à un moment donné, il y a des sacrificateurs qui se sont levés, qui ont dit « ce n'est pas possible, il faut qu'on rétablisse l'injustice, parce qu'il y a quelque chose qui est là, qui est totalement injuste, il faut qu'on change cela, il faut qu'on mette sur le trône un fils du roi David ». Et quand ils ont commencé à faire cela, il nous est dit, 2 Chroniques 23, verset 1er, « La septième année, Jéhojada s'anima de courage. Il traita alliance avec les chefs de centaines, etc., etc. Toute l'assemblée, au verset 3, traita alliance avec le roi dans la maison de Dieu. Et Jéhojada leur dit, « Voici, le fils du roi règnera, comme l'Éternel l'a déclaré à l'égard des fils de David. » Est-ce que c'est facile de dénoncer le péché ? Est-ce que c'est facile de reprendre son frère ? Est-ce que c'est facile d'aller trouver son frère et lui dire « tu vois, tu as fait ceci ou cela ». Alors des fois, c'est facile parce qu'on ne regarde pas nous-mêmes et on voit tous les défauts des autres. Dans ce sens-là, c'est facile, mais ce n'est pas ça dont je parle. Je parle de quelqu'un qui a une bonne relation, une bonne communion avec le Seigneur et qui est amené à un moment donné à devoir reprendre son frère pour justement le gagner, comme le dit la parole. Est-ce que c'est facile ? Est-ce qu'il ne faut pas du courage ? Est-ce qu'on n'a pas besoin justement de cette force et de cette sagesse qui vient de Dieu, de cet esprit d'amour, de force et de sagesse, pour pouvoir aller le voir et lui dire « voilà, il y a ceci, cela qui ne va pas ». Est-ce que ces hommes n'ont pas eu besoin d'avoir ce courage qui vient de la part de Dieu ? Parce qu'ils avaient dans le cœur ce désir que l'injustice puisse être arrêtée et que la justice soit rétablie. La reine qui était là, ce n'était pas sa place. En plus, elle était méchante et elle adorait les idoles. Et Dieu voulait qu'il y ait un fils de David, ou un petit-petit-petit-fils de David, vous avez compris, qui soit le roi. Je pensais au temps dans lequel nous sommes, et je me posais cette question, est-ce que ça ne demande pas du courage, justement, de prendre position face à toutes sortes de personnes, et le plus grand nombre qui pense une certaine chose, alors que ça ne correspond pas à ce que dit la Bible. Est-ce qu'il ne faut pas du courage ? Est-ce qu'il ne faut pas du courage pour pouvoir se lever et dire « moi, voilà, je pense comme cela ». Est-ce qu'il ne faut pas du courage ? Je pensais à l'exemple de ce général, il y a le roi de Prusse, Frédéric le Grand. Donc c'est une histoire vraie, hein, qui a été connue comme un roi qui était totalement athée, totalement agnostique. En revanche, son général, Von Zeeland, un de ses officiers les plus fiables, c'était un fervent chrétien, un gars qui aimait vraiment le Seigneur. Et un jour, alors qu'il faisait une fête, il y a le roi qui commençait à faire des blagues grossières, qui commençait à dire n'importe quoi par rapport au Christ. Et il commençait à rigoler, et tous les gens qui étaient là, les gens qui suivaient exactement ce que disait le roi, ils étaient là, ils rigolaient, et tout le monde se tordait de rire. Et puis il y avait le général qui était là, qui lui ne bronchait pas d'un sourcil. Et puis à un moment donné, il commence à venir vers le roi, et il dit « Sire, vous savez que je ne crains pas la mort. J'ai combattu et gagné 38 batailles. » C'est un vieux général qui était aguerri, qui était fort au combat, courageux. « J'ai gagné 38 batailles pour vous. Mais je suis un vieil homme et je vais bientôt entrer dans la présence d'un plus grand que vous. Le puissant Dieu qui m'a sauvé de mon péché, le Seigneur Jésus-Christ, que vous blasphémez. Je vous salue, sire. » Comme un vieil homme qui aime son sauveur sur le bord de l'éternité. Parce qu'il ne savait pas ce que le roi allait faire. Il pensait qu'il allait peut-être le mettre à mort, hein, tout simplement. Et alors tout le monde s'est tué. L'ambiance, elle a totalement disparu, hein, en une seconde. Et puis le roi, d'une voix tremblante, il a commencé à dire « Général, je vous demande pardon. je vous demande pardon. » Et puis la fête s'est arrêtée là, net. Et ce roi a compris qu'il avait blessé son général le plus précieux. Et cet homme, moi ce que j'ai admiré surtout, c'est cet homme, ce chrétien, qui a pas hésité à dire ce qu'il pensait. À reprendre même un roi, quelqu'un qui avait un pouvoir au-dessus du sien, mais parce qu'il est en train de blasphémer. Et je crois que dans la confusion dans laquelle on se trouve dans notre monde, il est bon qu'il y ait des chrétiens qui aient ce courage. Non pas d'aller crier sur les toits et de provoquer les gens, ce courage de dire « voilà, moi je pense ça ». Moi, je crois qu'il ne faut pas se moquer de Dieu. Je crois qu'il ne faut pas insulter le Seigneur. Je crois que cette semaine, il y a eu des gens qui se sont moqués de Dieu en supprimant la vie d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose d'horrible qu'on doit condamner. Mais je crois qu'il y avait, avant ça, il y avait des personnes qui se sont moquées de Dieu. Si vous avez vu les dessins, vous savez de quoi je parle. Et je crois qu'il faut qu'on ait le courage de dire que le Dieu que nous servons, ce n'est pas ce Dieu-là dont on peut se moquer, dont on peut rigoler. C'est un Dieu qu'on doit craindre. Quand on l'a lu pour la Sainte-Seine, vous avez vu ce passage? Celui qui est au-dessus de toute chose, celui qui a créé l'univers, celui qui nous a tous créés, celui qui a créé tout ce que nous avons, est-ce qu'on pourrait oser se moquer de lui? Je ne crois pas. Je crois qu'on a besoin d'aller dans la présence de Dieu et de puiser ce courage. Et je voudrais finir avec ce passage des Actes. Connaissez l'apôtre Paul, Actes 28, nous montre un moment de sa vie où il était découragé. Quand on pense à l'apôtre Paul, ce n'est pas au découragement qu'on pense. Quand on lit les Épîtres, on voit que cet homme qui était dans les prisons, qui était dans des difficultés, dans l'affliction, dans les jeûnes, etc., il était toujours rempli d'une parole d'espérance. Mais il a connu quand même des moments dans sa vie où il était découragé. Et il y a quelque chose qui lui a rendu le courage. Acte 28, verset 15. Il est dit, de Rome vers un autre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux trois tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce et prit courage. Ça vous est déjà arrivé de reprendre courage simplement en voyant un frère, en voyant une sœur qui est là et qui vous met sa main sur l'épaule, qui vous donne une parole, qui va vous exhorter? J'aime à penser que même l'apôtre Paul, lui qui a vécu tant de belles choses avec le Seigneur, lui qui a eu des révélations tellement merveilleuses, à un moment donné dans sa vie, il était découragé, il avait besoin de reprendre courage. Ça s'est passé par l'intermédiaire des frères qui sont venus le voir. C'est simple. La communion fraternelle. Est-ce que nous réalisons la profondeur de la communion fraternelle? Est-ce que nous réalisons que le lien qui nous unit à nous tous qui aimons le Seigneur, c'est pas un lien de chair et de sang, c'est un lien d'esprit, d'amour. Quelqu'un va me dire, mais moi je vais bien, moi je n'ai pas besoin d'être encouragé parce que je suis déjà plein de courage. Et justement, est-ce que c'est pas vous que le Seigneur veut utiliser pour encourager un frère ou une sœur dans l'assemblée qui passe par un découragement, par une lassitude, qui est en train de se relâcher, que vous voyez en train de peut-être de se perdre sur un chemin qui n'est pas bon, qui est glissant? Est-ce que parce que vous êtes plein de courage, le Seigneur ne vous dit pas, va et reprends ton frère? Je ne veux pas le lire, mais quand on connaît les Galates, le chapitre 5, qui nous parle du fruit de l'esprit, qu'est-ce qu'il est dit? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, toutes sortes de vertus qui sont merveilleuses. Mais juste après, il est dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Enfin, il est dit, reprends-le avec nous. Ah, je ne vais pas déformer le sens, allez, je suis obligé de le lire. Parce que je confonds avec un autre passage en même temps. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. À quoi ça sert d'être rempli du Saint-Esprit? À quoi ça sert de connaître la puissance de Dieu si ce n'est pas pour reprendre mon frère ou ma sœur qui est en train de tomber, qui est en train d'aller sur un chemin glissant? À quoi ça sert? À quoi ça sert de parler en langue tout le long du culte si je ne prends pas soin de mon frère et de ma sœur qui est à côté de moi et qui a besoin tellement d'amour et de grâce que le Seigneur peut lui donner au travers de moi? À quoi ça sert? Frères et sœurs, venons au pied du Seigneur dans ces instants. On va s'incliner. Qui cet après-midi est découragé? Qui cet après-midi est lassé? Qui cet après-midi a l'âme abattue et languissante? Peut-être que personne ne le sait, peut-être que c'est quelque chose qui est dans votre cœur, que seul le Seigneur sait, parce que oui, j'aime me rappeler ces choses. Le Seigneur est ému de compassion devant la foule qui est languissante. Le Seigneur est ému de compassion devant un cœur qui est abattu. Le Seigneur est ému de compassion devant quelqu'un qui est en défaillance, quelqu'un qui est prêt à tomber, parce qu'il veut le bénir, parce qu'il veut l'encourager. Venez à moi, vous tous, a-t-il pu dire, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Qui cet après-midi peut dire, moi je suis fatigué, moi je suis chargé, moi je suis découragé, moi j'ai perdu courage par toutes sortes de choses, en regardant aux choses de ce monde, en regardant à mes failles, en regardant aux mensonges de l'adversaire, en écoutant les avis des personnes autour de moi qui sont découragées, j'ai perdu courage. Cet après-midi, je vous invite à vous approcher de celui, le seul, qui peut vous redonner courage. C'est Jésus-Christ. Le seul qui a vaincu le monde, c'est Jésus-Christ. Le seul qui a vaincu tous ses adversaires, tous les adversaires de notre âme, c'est Jésus, sur le bois de la croix. Qui va avoir le courage de demander pardon pour son péché? Qui va avoir le courage de venir dans la présence de Dieu et de dire « Seigneur, je veux être fidèle, non pas à ce que les gens pensent, non pas à mes idées, fidèle à ta parole. » Qui va avoir le courage d'agir selon la parole? Qui va avoir le courage de faire ce que le Seigneur lui demande de faire? Qui va avoir le courage de prendre soin de celui qui est à côté de lui? Prions le Seigneur, mes frères et mes sœurs. Oui, Éternel, nous croyons en la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons en la puissance de ta parole qui est agissante, qui est vivante, Seigneur, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, Seigneur. Cet après-midi, nous croyons que ta parole, Seigneur, a fait son œuvre déjà dans les cœurs et elle va continuer de le faire. Nous te demandons, oui, que les personnes qui sont dans le découragement, dans l'accablement, dans la lassitude, qu'elles puissent venir puiser en toi ce courage que tu veux leur donner, parce que tu es ce Dieu plein de grâce, plein de miséricorde. Tu es ce Dieu qui pardonne le péché, tu es ce Dieu qui pardonne la faute, qui pardonne même la rébellion, Seigneur. Tu es ce Dieu qui efface notre passé et qui nous permet d'être totalement restaurés, Seigneur, cet après-midi. Fais-le, Seigneur, pour mon frère. Fais-le pour ma sœur qui a besoin de retrouver ce courage, de retrouver cet élan, cette force pour aller de l'avant. Tu vois, ces personnes qui ont besoin d'avoir cette force pour tenir bon, malgré tout ce que les collègues, les amis dans le travail peuvent leur dire, Seigneur, merci de leur donner ce courage, Seigneur. Tu vois, ceux qui ont besoin de ce courage pour s'écarter du péché, Seigneur, pour rétablir la justice là où il y a l'injustice qui règne, Seigneur. Donne-leur le courage, que ta grâce les anime, que ta puissance les remplisse cet après-midi, dans ces instants, par la puissance du Saint-Esprit. Merci Éternel pour l'œuvre que tu accomplis. Amen.